Merci Jacques. Alors, il y a un peu tard déjà.
Je vais passer.
Je vais prendre une question. Et j'ai remarqué que, moi, à la fin, dans la blessure et la bénédiction, j'ai pensé au Christ. C'est bizarre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la, il y a une question qui est très intéressante, c'est qu'effectivement, il y a un goût dans le judaïsme, on pense plus par rapport au Talmud et justement à ce récit où les rabbins sont jamais d'accord, un goût de la multiplicité, un goût de la séparation, de la polémique. Et de la... Alors, il faudrait voir si, effectivement, le christianisme serait plutôt, non pas du côté de la séparation, mais d'une union jusqu'à presque une sorte de fusion. En même temps, on sait que le Christ ressuscité, va dire Marie-Madeleine, ne nous retient pas. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Et puis, il y a aussi quatre évangiles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un évangile. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a toujours cet écart de l'un à l'autre. Donc moi, je ferais une lecture beaucoup plus juive, je dirais, du donné révélé chrétien dans cette situation-là. Alors, est-ce qu'il y aurait une question? On va prendre une question.
Je suis désolé d'avoir prolongé, parce que, bon, il y a tant de choses à dire, je dis un dixième de ce que je voulais dire, mais en fait, c'est pas grave.
Demain, vous aurez encore deux fois... Après, il y aura trois séances, je crois, sur Pascal. Après, alors, je vais prendre Julien, je prends une question, je suis désolé.
J'ai vu Julien. On peut conjuguer les deux questions, c'est pas.
Alors, vas-y, Julien.
Vous parlez-vous de créer le sens à partir d'un texte. Quand les commentateurs juifs font ça, est-ce qu'il y a cette idée d'une intention du texte, c'est-à-dire l'auteur du texte aurait voulu dire quelque chose qu'il faudrait tâcher de comprendre, ou est-ce que vraiment c'est dans la... Parce que vous avez dit aussi que le sens, il y en avait une multiplicité infinie. Et donc, comment est-ce qu'on hiérarchise entre les sens qu'on trouve, en fait? Comment est-ce qu'on peut débattre, finalement, s'il n'y a pas un critère?
La crainte, c'est le fait qu'il y ait une sorte de relativisme, c'est ça, total?
Non, c'est, enfin, je vois bien qu'il n'y a pas de relativisme, puisqu'il y a débat entre les commentateurs juifs, mais justement, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut exister.
Je reprends ce que disait Lévinas, le Talmud et l'interprétation, c'est de pouvoir dire, pas de vouloir dire. Donc le sens n'est pas implicite. Il n'y a pas ce que le texte veut dire, je ne sais pas ce que Dieu veut dire, je ne sais pas ce que la Torah veut dire, mais c'est ce qu'elle peut dire. C'est une potentialité infinie, une ouverture infinie du sens. Le sens, c'est une orientation, c'est comme ça que je l'entends, c'est des manières de dire. Voilà, on verra demain comment ça se présente dans le texte. Hein. On voit le texte de la Torah dit des choses, et comment les auteurs, les rabbins, vont dire, présenter les choses. Et pourtant, ils sont en train de rendre possible une lecture, et une lecture même différente de ce que dit le texte. Donc, il n'y a pas chez nous, et c'est important, il n'y a pas de lecture fondamentaliste. On ne peut pas lire, comprendre ce qui est écrit, parce que c'est une parole. C'est pour ça que pendant des décennies, jamais la transmission orale ne s'est écrite. À tel point que, je représente cette idée demain, que l'auteur de ce qu'on appelle la Mishnah, une partie du Talmud, le code de loi qui est en cours, il avait devant lui, dit-on, 300, selon son tradition, 700 corpus de loi. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Il avait ça devant lui. Imaginez, vous avez 700 documents. Vous tirez de loi là-dedans. Quand la Mishnah va être faite, c'est entre 2 et 6 lignes. Ils avaient 700 corpus de plusieurs volumes. Alors, ce n'est pas seulement des traditions écrites et orales. Vous recevez ça depuis 8 siècles. On est au 21e siècle. Remontez ça au 15e siècle. Vous recevez un enseignement oral. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, le sens n'est pas donné une fois pour toutes. Chaque génération, chaque maître va relire, réinvestir du sens là où l'autre ne l'a pas dit. comme il est familier qu'il sera donné, c'est que nous sommes des nains sur les épaules des géants. Ben, tout petit qu'il soit, il voit un tout petit peu plus loin que ce géant. Et ce géant va beaucoup plus haut que lui.
Je pense que c'est intéressant parce que vous avez un cours sur l'islam et il y a la thèse de la transcendance de la parole. Enfin, le Coran est édicté, donc on ne peut pas l'interpréter parce que c'est Dieu qui l'édicte. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les juifs, on pourrait comparer à la limite de la même chose, c'est-à-dire que la Torah, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que quelqu'un doit l'interpréter. C'est-à-dire que, justement, si c'est la parole de Dieu, elle n'est pas directement accessible. On disait, il y a ce vide, et ce vide, c'est le lieu, justement, de l'interprétation. Mais alors, juste ce qui a été dit à un moment, vous l'aviez dit, Jacques, c'est que l'enjeu, et c'est là où il y a un renversement par rapport à la pensée grecque de la découverte, du dévoilement, c'est que nous, on croit qu'il s'agit de comprendre le texte et de remonter vers une intention, c'est ça? Alors qu'il a, là, il s'agit, puisque c'est la parole de Dieu, de se comprendre soi-même dans cette parole. Donc il ne s'agit pas de savoir ce qu'elle veut dire, mais c'est plutôt à chaque fois dans l'interprétation face à cette parole que je me découvre moi-même et que je me constitue moi-même. C'est pas comme quelque, c'est pour ça que cette question du pouvoir dire, plus que du vouloir dire, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est plutôt... Elle m'appelle moi-même à ma propre parole, elle me rend responsable, elle me donne de répondre de cette parole, et je me constitue vraiment comme fils d'Israël, comme enfant de Dieu, comme chrétien, vis-à-vis de cette parole. Le but, c'est pas de savoir ce que ça veut dire, c'est d'entrer dans ce dialogue, une parole à chaque fois, et alors je suis dans cette relation filiale, dialogale, qui me constitue moi-même dans ma parole. C'est ça qui est un renversement complet. Il ne s'agit pas de dévoiler l'être des choses et l'être qui vous pose tous. Il s'agit de se constituer en vis-à-vis et en réponse interprétative, personnelle à la parole du autre. Il restera toujours la parole du autre. C'est ça qui est singulier et qui est une rupture hein, vis-à-vis, enfin une rupture, c'est une rupture, mais enfin, c'est autre chose que la pensée. C'est pour ça que c'est notre problème à nous en général, c'est qu'on n'arrive pas, et on voit à quel point on est marqué, hein, on n'arrive pas à penser la vérité et le rapport de parole presque en dehors des catégories grégolatines, d'une certaine façon. Et pourtant, c'est là. On voit bien d'ailleurs dans le mystère chrétien aussi, en quoi c'est une histoire juive, parce que la parole, c'est une personne. C'est pas une théorie qui me dévoile la vérité. De l'être. Il y a quelque chose qui est. Mais qui pourra aussi assumer cette dimension-là de
la vérité.
Pardon ?
C'est pour ça qu'on peut faire Yeshiva sur le Nouveau Testament.
Oui, alors voilà, c'est ça ce qu'il fait. Il faisait ce que fait Yvan. Voilà, on va s'arrêter ici parce qu'il est tard et que vous commencez quand même tôt demain à 8h30. Bon, merci.